Chers sœurs et frères des mondes francophones, je vous salue tous avec l'amour fraternel depuis le siège de l'Église et du Dieu vivant à Charlotte, en vous souhaitant tous un sabbat paisible et plein de bénédictions pour chacun et chacune d'entre vous. Pour moi, c'est un vrai honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Un honneur que je ne mérite pas, qui est trop grand pour moi, mais que la gloire soit à Dieu, et je le fais humblement, tout d'abord pour honorer la mémoire de Dieu appartient, un homme dont Dieu se servit pendant presque 60 ans pour écrire l'un des plus grands chapitres de l'histoire des dieux et de l'œuvre des dieux dans les mondes francophones, et même son influence était sentie dans tous les autres domaines de l'œuvre, l'œuvre espagnole, l'œuvre anglaise, et toutes les autres à cause de ses écrits et de ses sermons. Monsieur Appartient a toujours été un exemple lumineux pour moi de diligence et de travail et d'éducation. Donc, avec vous tous, chers sœurs et frères, j'honore la mémoire de cet homme dont Dieu s'est servi d'une façon tellement puissante au XXe et XXIe siècle, mes chers amis. Aujourd'hui, donc, en disant ça, je veux saluer d'abord les frères d'Haïti. Je crois qu'ils sont en connexion, ils sont connectés avec nous aujourd'hui. Et j'en connais quelques-uns parmi vous. Et encore, je vous salue avec de l'amour fraternel à tous les Haïtiens, à tous ceux qui ont persévéré et que j'ai connus il y a des années, qui sont encore là, fidèles à l'appel du Père et du Christ. Je salue aussi les frères de la Martinique, les sœurs et les frères de la Martinique, c'est le deuxième pays dans les Caraïbes. Mes salutations, j'ai donc eu le grand plaisir de connaître M. Ginier et votre diacre Étienne, dont les noms, je ne me souviens plus le nom de famille, mais un homme vraiment que j'ai aimé à première vue, on voyait sa sincérité, donc j'étais très content de faire leur connaissance. Aussi, je salue les frères du Canada, du Québec, de la ville de Montréal et de la ville de Québec, des endroits que j'ai déjà visités dans ma jeunesse et que j'aime beaucoup. Je salue aussi les frères de la Belgique. Salutations fraternelles, en plaisir de m'adresser à vous tous avec l'espoir de vous voir personnellement, peut-être d'ici peu, je ne sais pas, au moins cet été. Et je salue aujourd'hui, bien sûr, le frère de la France, le pays qui a vu des années heureuses de ma jeunesse et dont je me souviens avec grand enthousiasme et joie et gratitude pour ce pays et pour les gens qui m'ont accueilli avec tant d'amour, même à l'époque où je n'étais pas encore dans l'Église, mais Dieu a permis que j'apprenne cette langue qui maintenant soit à votre service, mes chers frères. Et je salue aussi les frères de la Suisse. Je crois que j'ai mentionné tous les pays. Je prierai à Mademoiselle Déborah qu'elle me fasse signe au cas où peut-être les îles Canaries aussi. Je crois que c'est le dernier pays, là, de l'Espagne, où mes salutations à Monsieur Delatte et sa famille. J'ai la joie d'avoir leur fils ici au studio qui nous accompagne ce matin. Bon, chers frères et sœurs, il y a un commandement du Christ. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an. C'est le jour de l'an de l'année 2011. Incroyable! Mais on peut dire une chose au moins, on n'avait jamais été plus proche du royaume des dieux qu'aujourd'hui. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi, chers sœurs et frères. Donc, le Christ, je vais commencer à citer une des Écritures dont il nous conseille au chapitre 13 du livre de l'Évangile de Marc. Le Christ, il nous conseille, il nous ordonne de veiller. Alors, cette vigilance a deux aspects. Il faut veiller sur nous-mêmes, sur notre vie spirituelle. C'est exactement ce que le Christ a voulu dire quand il a dit à ses apôtres, surtout à Pierre, à Jean et à Jacques, quand ils étaient avec lui à Gethsemane, et qu'il priait, il leur a dit, « Priez et veillez pour que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est toujours prêt, mais la chair est faible. » Donc, ça c'est un avertissement de notre maître, surtout quand on pense, comme je viens de vous le dire, on n'avait été jamais plus proche du royaume des dieux qu'aujourd'hui. Et c'est intéressant que Dieu a permis que je vous parle le jour des l'an, quand lui-même, il permet que pendant les mois de janvier, il y ait des événements importants, même qui changent parfois la direction du monde et qui sont des événements importants aussi pour l'Église des dieux. Vous savez bien que Monsieur Armstrong a commencé à prêcher en janvier de l'année 1934, quand il a commencé à prêcher l'Évangile qui n'avait pas été prêché au monde pendant des siècles, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est intéressant qu'aujourd'hui, je crois que ça a beaucoup de signification, qu'on puisse se retrouver tous ce jour-ci. Une dernière chose que j'ai oublié de dire de M. Appartient, c'est que je suis presque sûr que la plupart d'entre vous, et peut-être vous tous, avez été appelés à l'Église des dieux par l'intermédiaire de cet homme. Il ne faut jamais oublier ça, autrement ce serait de l'ingratitude, mes chers amis. Donc, il faut toujours oublier. L'ingratitude est liée à l'oubli. Donc, il faut se souvenir de tout ce qu'on a reçu par l'intermédiaire de cet homme, et je voulais mentionner ça avant d'entrer dans le sujet. Donc, le Christ aussi, il nous conseille de veiller sur les événements du monde. Ce qui arrive autour de nous, il nous a donné des signes, il nous a révélé une connaissance que le monde ne connaît pas, au sujet du déroulement de la prophétie et des événements qui vont être juste avant son retour. Donc, mes chers sœurs et frères, nous allons lire maintenant, pour suivre les conseils de notre maître, le chapitre 13 du livre de l'Évangile de Marc. Je vous prie de vous adresser maintenant ou de chercher dans vos Bibles le chapitre 13, verset 37. Le Christ venait de mentionner tous les événements de la fin du temps, de la fin. Il y a ici une petite note chez M. Louis Segond, il y a exhortation à la vigilance. C'est bien dit au temps de la fin. Donc, il nous a donné des clés absolument claires et que nous pouvons maintenant, dans la connaissance qu'il a donnée à son Église, l'Église dit Dieu vivant, le bastion de la vérité, mes chers amis, il nous donne donc une connaissance de la scène du monde que les géopoliticiens et ceux qui connaissent l'histoire d'après le monde ne peuvent pas comprendre. Donc, je vous prie donc de lire avec moi le chapitre 13 et verset 37 de l'Évangile de Marc que le Christ nous dit, c'est que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, cette vigilance dont il parle ici se réfère aux événements prophétiques qui sont sur la scène du monde. Et aussi, comme je vous l'ai mentionné, vous le connaissez bien, c'est le texte dans l'Évangile de Matthieu où il parle de la vigilance sur notre état spirituel personnel. Mes chers amis, donc il faut combiner les deux et aujourd'hui, on va essayer de faire ça dans ce message. Je vais d'abord vous mentionner quelques aspects du monde, des événements prophétiques qui sont sur le point de s'accomplir. Je ne peux pas vous dire exactement quand ça va arriver, mais le fait d'avoir ça dans l'esprit nous aide à être appliqués ces commandements de la vigilance sur les événements du monde, sur l'accomplissement de la prophétie. Et maintenant aussi, ça va nous aider, comme nous essayerons de les montrer vers la fin du sermon, d'éveiller sur notre état spirituel. Mes chers amis, le temps est court. Ce n'est pas le temps d'être paresseux. Je vous dis, excusez-moi de vous dire ça comme ça un peu ouvertement, mais c'est que l'apôtre Paul a écrit aux Hébreux, si vous lisez cet épître de nouveau, l'un des principaux thèmes de cette Bible, c'est la diligence spirituelle. Il manquait, il ne manquait que 3 ans. Il paraît, d'après tous les érudits, que cette épître a été écrite à peu près vers l'année 67 de notre ère, après le Christ, et que l'accomplissement premier des prophéties du mont de l'Olivier que le Christ avait prononcé était sur le point de s'accomplir. La destruction de Jérusalem s'approchait. Mais aujourd'hui, on est déjà de nouveau sur le point de voir l'accomplissement de cette prophétie dans sa deuxième, si vous voulez, partie, ou dans sa dualité, comme on nous a appris dans l'Église que la prophétie de Dieu a deux accomplissements, parfois plus que ça, mais on est peut-être sûr qu'on est très près de voir l'accomplissement de la prise de Jérusalem pour la fin de pour la fin du temps. On sait que pendant 3 ans et demi, la bête et les faux prophètes vont s'installer à Jérusalem. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 11, vers la fin du chapitre 11, c'est pleinement écrit au livre de Daniel. Donc, je vais encore vous lire une autre écriture pour tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers sœurs et frères, même si j'ai fait un petit peu de spéculation parfois, mais les raisons par lesquelles je vous présente le sujet d'aujourd'hui et les thèmes que je vais vous présenter, elles vont être toujours justifiées dans la parole des dieux. Vous verrez ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc, maintenant, je veux que vous alliez, s'il vous plaît, avec moi au livre des Proverbes, chapitre 29. Livre des Proverbes, chapitre 29. Et nous avons une autre écriture ici qui est le fondement pour que je vous donne ce message. Il faut toujours avoir cet appui de la parole des dieux, mes amis, pour tout ce qu'on dit et qu'on pense et qu'on fait. Vous le savez bien. Donc, au chapitre 29 et verset 18 du livre des Proverbes, je vous invite à le lire avec moi. Il dit « Quand il n'y a pas de révélation ». Et il paraît que M. Segon a omis un mot très important, de la révélation prophétique. Donc, vous pouvez marquer cela, ça va vous aider à comprendre un peu plus profondément la signification de ce verset. Chapitre 29, verset 18 du livre des Proverbes. « Quand il n'y a pas de révélation prophétique ou des visions prophétiques, comme il y a d'autres traductions qui le disent, le peuple est sans frein. » Donc, il est nécessaire pour nous, mes amis, que nous sachions les événements qui s'approchent. Ça nous aide à ne pas être sans frein, mais à pratiquer la maîtrise de nous-mêmes. Le fruit de l'esprit, mes amis, de se nier soi-même pour suivre le Christ dans le chemin étroit vers la vie éternelle. Il faut se nier soi-même tous les jours, mes amis, pour que la présence du Christ puisse se manifester par notre intermédiaire au monde et à nos familles. Donc la révélation prophétique ou la vision prophétique nous aide à garder les freins, c'est-à-dire à ne pas laisser cette discipline d'apprendre à se nier soi-même en tout ce qui concerne la transgression de la loi de Dieu et à suivre le Christ jour et nuit, et maintenant plus que jamais, comme nous allons le voir aujourd'hui, mes amis. Quand il n'y a pas de révélation prophétique ou des visions prophétiques, je répète ce verset, le peuple est sans frein. Donc il y a une raison très importante, je vous l'ai dit, pour que je vous donne le sermon que je vous donne aujourd'hui. Là est la raison, elle est juste là devant vos yeux. Il faut la révélation prophétique pour ne pas être sans frein, pour ne pas perdre la maîtrise de soi, pour ne pas perdre la coutume que nous devons avoir comme disciples de nous nier nous-mêmes en ce qui concerne la transgression de la loi de Dieu jour après jour. Alors, immédiatement après, ce qui est parti du même verset, « Heureux s'il observe la loi ». Donc, la prophétie ou la vision prophétique nous aide à nous maîtriser nous-mêmes, avoir de la tempérance, qui est la maîtrise de soi, et à garder la loi des dieux, qui est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle, comme le Christ même a dit au chapitre 19 du livre de Matthieu, quand le jeune homme lui a posé la question, que faut-il faire pour entrer, pour hériter la vie éternelle? Le Christ lui a répondu clairement, il faut garder les commandements. Pour garder ces commandements, comme le Christ nous a appris, mes amis, il faut se nier soi-même, mais en même temps, on éprouve le plaisir ineffable de la présence de Dieu en nous, qui ne se compare pas avec le plaisir passager dont on se nie nous-mêmes, ou on renonce à des plaisirs passagers pour avoir une récompense immédiate en nous-mêmes, cette paix profonde qui produit l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas de paix sans obéissance au commandement de Dieu. C'est le fondement de la paix intérieure et ça va être le fondement de la paix au niveau mondial quand le Christ va retourner, quand tout le monde aura comme plateforme politique, et spirituelle et sociale les 10 commandements qui vont sortir de Jérusalem et que nous devons pratiquer de maintenant si nous allons enseigner le monde. Il faut être fidèle en ce qui est peu pour pouvoir être que Dieu nous confie ce qu'il y a, il va nous confier beaucoup. Alors là, je vous ai donc dit des raisons par lesquelles on va examiner quelques aspects de la scène du monde aujourd'hui qui vont nous aider à avoir la vision du futur clair, à ne pas perdre les freins, à garder la maîtrise de soi, à garder la loi et à nous préparer jour et nuit pour le retour du Christ, mes chers amis. Donc, la première chose que je voulais vous mentionner, que vous connaissez bien, c'est qu'un élément qui va être absolument dramatique, c'est, si vous voulez, la chute, ou si vous voulez, le fait que les États-Unis et même tous les pays israélites, toutes les tribus d'Israël, mes amis, qui s'approchent vers la faillite économique, mais aussi, surtout, la cause de cette faillite, c'est la dépravation morale, mes chers amis. J'aimerais vous lire quelques écritures qui nous avertissent au sujet de ce qu'on observe aujourd'hui. Ce pays, surtout, qui est l'économie la plus grande du monde, 300 millions d'habitants, avec un potentiel absolument incroyable, il s'approche, il va au galop, comme on peut dire, dans des expressions d'autres temps, au galop, et il y a une expression pour ça, le galop allongé vers la faillite, mais surtout vers la chute de la ruine, à cause de la ruine morale, de la dépravation morale, ce pays va au galop, allongé vers la ruine morale, et vers la ruine économique, il va être l'esclave de la bête, pour le dire dans un langage direct, mes chers amis. Donc, si vous voulez aller avec moi au chapitre 28 du livre de Deutéronome, nous allons voir des écritures que vous connaissez très bien, mais qu'il faut nous rappeler maintenant. Et au chapitre 28 du livre du Deutéronome, j'aimerais que vous voyez quelques signes qu'on voit déjà sur la scène dans ce pays-ci et dont la chute ou l'esclavage va avoir un impact énorme parce que quand il y a un vide économique ou d'une puissance mondiale et ce vide est rempli par une autre, il y a toujours des moments dramatiques et ça va changer vraiment le cadre du monde d'une façon dramatique quand ce pays deviendra l'esclave de la bête, mes amis, et après sera détruit, comme c'est écrit dans les Écritures. Donc, je veux que vous voyez avec moi quelques Écritures du Deutéronome 28 qui s'accomplissent aussi dans des pays de l'Europe qui sont israélites, même comme la France et la Suisse et l'Angleterre, parmi autres, même la Belgique, bien sûr. Et je vais vous lire maintenant, je cherche ici et cette écriture qui je perds maintenant, mais je vais la trouver tout de suite, où Dieu prédit que le pays va être en dette, et vous le savez bien, ça c'est une prophétie, et voilà. Au verset 43 du chapitre 28 du Deutéronome, chapitre 28 et verset 43, nous pouvons lire des Écritures qu'on voit s'accomplir maintenant. Il dit « L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. » Nous le voyons même, nous n'avons rien contre la dignité de la présidence de ce pays, mais vous voyez, pratiquement, il y a quelqu'un qu'on peut parler, appeler un étranger qui est dans la maison blanche de ce pays. C'est une prophétie accomplie et des prophéties vont continuer à s'accomplir. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et il nomme plus en plus des gens qui ne viennent pas de la souche anglo-saxonne. Donc, il y a toujours plus d'étrangers qui sont dans des positions clés du pouvoir dans ce pays. On est en train d'observer cette prophétie s'accomplir. On n'a rien contre la personne en elle-même, mais ce qu'on fait, c'est qu'on observe l'horizon et on voit ce que Dieu nous a dit qu'il faut observer. L'étranger, chapitre 28, verset 43 du livre du Deutéronome, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. On dit, on sait bien que le pays le plus endetté du monde, et c'est encore une prophétie là, Dieu leur avait promis, si vous m'obéissez, vous allez prêter à toutes les nations, mais si vous ne m'obéissez pas, ce sont eux, vos ennemis, qui vont vous prêter. Et vous savez qu'on peut dire que le livre des Proverbes est un livre prophétique, parce que quand il y a un proverbe qui s'accomplit dans la vie, et la conséquence est déjà prédite. Donc, on peut voir facilement, ici, si vous voulez voir, au chapitre 22 du livre des Proverbes, au verset 7, et puis on va retourner au livre du Deutéronome pour voir un petit peu la scène dans ce qui concerne les pays des États-Unis. Au chapitre 22, verset 7 du livre des Proverbes, vous voyez, c'est une prophétie. Quand il y a une partie qui arrive, l'autre arrivera comme une conséquence. Chapitre 22, verset 7, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc les étrangers vont s'emparer de ce pays, et ce pays va devenir un esclave. C'est écrit. Et bien sûr, mes amis, comme je vous l'ai dit, le pays montre de plus en plus un mépris pour les lois des dieux. Maintenant, on est en train de pousser d'une façon et d'insister d'une façon absolument incroyable pour l'acceptation totale de l'homosexualité dans l'armée de ce pays. C'est, si vous voulez, le dernier bastion d'honneur et d'intégrité où on enseigne encore des principes, mais ils veulent tout souiller, mes chers amis. Donc, il y a un avertissement contre ça que le Dieu nous donne par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre quand il parle de Sodome et de Gomorre. Alors quoi que ça ferait le sujet de tout un sermon, mais je veux simplement vous présenter un panorama aujourd'hui, un panorama sur la scène du monde. Mais si vous voyez au chapitre, dans la deuxième épître de l'apôtre Paul, deuxième épître, il dit... Ici au chapitre 2, deuxième épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, il dit au verset 6, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 6, « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes, ce qui va arriver dans ce pays-là, et dans pas mal de pays d'Europe aussi, mes amis, pendant la grande tribulation. » Je répète, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Nous les avons là maintenant avec nous, mes amis. Les impies à venir sont déjà là. Et ils veulent corrompre absolument tous les aspects de la société où cet aspect seulement, on peut parler beaucoup d'autres aspects, de l'avortement, mais pour parler d'un aspect précis, si vous voulez, l'homosexualité, ils s'efforcent, mes amis, et ce qui est une offense au grand Dieu, parce qu'à qui beaucoup Dieu a donné, ils vont en demander beaucoup. Il n'y a pas un pays au monde où il y a plus de Bibles qu'aux États-Unis. Donc, ils ont un témoignage, même dans tous les hôtels, même en France ou dans pays du monde, il y a ces Bibles-là que le Gédéon ont distribuées partout. Il n'y a pas, et qu'il y a des acteurs qui veulent à tout prix répandre ces concepts de l'homosexualité, qui sont ces ventes d'arracher les pages de la Bible où Dieu condamne, mais ils ne savent pas qu'il les condamne dans beaucoup d'autres endroits de la Bible. Ce n'est pas dans un chapitre seulement au livre du Lévitique, il y en a partout où Dieu en parle contre cette dépravation morale de notre époque. Et à les scouts, les Boy Scouts, ils sont persécutés parce qu'ils n'ont pas pu pénétrer encore et qu'ils acceptent qu'il y ait des homosexuels parmi leurs chefs. Donc c'est un effort, mes amis, pour rendre légale la transgression des lois des dieux. Que croyez-vous que peut arriver dans une nation? Si vous lisez les trois premiers chapitres d'Isaïe, Dieu, il s'adresse à cette nation, il l'appelle Sodome et Gomorre, et toutes les autres nations israélites aussi. Donc ça concerne le pays, pas mal de pays, et même l'Espagne est entrée, le monde entier, mes amis. Mais il y en a qui ont reçu beaucoup plus. Les pays israélites ont reçu beaucoup plus de connaissances spirituelles. Ils ont leur Bible, ils n'ont pas d'excuses, mes chers amis. Donc, je vous répète, il y a un effort vraiment concerté où ils sont décidés à souiller tous les aspects de la société. Et même dans l'armée, où ils avaient mis quelques limites, ils veulent que le Congrès, maintenant, accepte une ouverture totale, mes amis. Donc, je vous répète ce que l'apôtre Pierre dit. Donc, la faillite économique sera une conséquence évidente de la dépravation morale. Pas seulement en ce pays, c'est dans le monde entier, mes amis. Mais il y a des pays qui ont plus de responsabilités que d'autres, parce qu'ils ont reçu beaucoup plus de pouvoir et de connaissances, donc ils n'ont pas d'excuses. Donc je vous répète, le deuxième épître de Pierre, chapitre 2, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Donc il a délivré Lot. Donc si nous gardons le chemin étroit et sommes fidèles à Dieu, il va nous protéger aussi et on va parler de ça un peu plus loin. Le serment va être un peu plus long, un peu long, donc préparez-vous, mes chers amis. C'est une occasion unique et j'ai l'intention d'en profiter au maximum. Donc, il y a d'autres choses que Dieu avertit à cause de la dépravation morale de ce pays. Il dit qu'il y a une puissance qui va venir d'une extrémité de la terre, Verset 64, je reviens au livre du Deutéronome, chapitre 28. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras à d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Et puis il dit ici que Dieu, il va faire venir... Il va faire venir une puissance étrangère qui va mettre un joug de fer sur leur cou. Je cherche ces écritures, je l'ai perdu un petit peu aujourd'hui, mais vous savez qu'elles sont là. Et puis il dit, je vais la chercher là dans ma Bible espagnole. Patientez avec moi, mes amis. Donc, au chapitre 28, de nouveau, je vais lire quelques écritures encore qui décrivent ce qui sera la chute pas lointaine de ce pays, parce que toutes les causes qui amènent les conséquences sont déjà là, devant nos yeux. Donc, je vous répète encore, et il dit... Au verset 49, chapitre 28, verset 49... Oui, je ne suis pas encore habitué assez à ma version ici, Louis Segond. Chapitre 28, verset 49, ça s'applique aux États-Unis, mais même à tous les pays israélites. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras pas la langue. C'est assez précis. On sait bien, on parle de l'allemand, hein, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Nous l'avons déjà vu pendant l'Holocauste à la Deuxième Guerre mondiale, mes amis. Elle mangera les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce que tu sois péri. Et donc, il dit qu'il va mettre un joug de fer sur leur cou au verset 48. Verset 48, Deutéronome 28-48, il dit, et j'aimerais commencer au verset 47, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Vous savez, quand vous cherchez la signification de joug dans la Bible, vous trouvez une explication qui ne finira pas la voir maintenant, parce qu'il faut continuer. J'ai pas mal de sujets à vous présenter. Jérémie 5 et verset 5, il s'applique certainement à la loi des dieux. Et donc, on comprend quand le Christ a dit « Prenez sur vous mon joug est léger ». Alors, s'il parle de la loi, c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 5, nous dit que ses commandements ne sont pas lourds, ne sont pas pesants. Donc, c'est clair qu'il est en train de parler. Le joug, c'est un symbole de la loi des dieux. Mais un joug de fer, c'est un symbole de la loi du diable, c'est-à-dire des lois qui vont être changées. La loi du sabbat, qui a déjà été changée. Mais le joug de la bête, c'est qu'il va l'imposer à la force à toute la population qui va être soumise à ce système. C'est un joug de fer. Oh, il sera interdit de garder le sabbat, de garder les fêtes des dieux. Il faudra adorer des images, il faudra avoir d'autres dieux. Et ce moment s'approche, mes amis. Aujourd'hui, un jour de moins, pour que ça vienne, la tribulation, la pire, qui jamais ait connue l'histoire, qu'on ait connue jamais dans l'histoire du monde, mes amis. On est tout proche. Donc, il faut nous éveiller, il faut avoir la vigilance. Donc, la chute de ce pays dans l'esclavage à cause des dettes, rien qu'une raison, quand on a des dettes, on devient un esclave, c'est une prophétie écrite dans les livres des Proverbes, et aussi à cause de la dépravation morale, le pays s'achemine ou s'amène, se dirige vers l'esclavage en toutes sortes, physique et morale, parce qu'on lui impose, on va lui imposer une loi par force qui est un joug de fer, mes amis. Donc, ça c'est un des aspects sur lesquels il faut veiller et de voir comment la dépravation morale continue à s'accroître et que les conséquences sont à craindre, comme on vient de le lire dans l'épître de l'apôtre Pierre. Un autre aspect, mes amis, qu'il faut, dont Dieu nous révèle des aspects incroyables dans sa parole que le monde ne comprend pas, et que Dieu nous donne la clé, parce qu'on respecte la parole de Dieu, on sait que c'est la révélation de Dieu, c'est qu'il est fort possible. Moi, je ne suis pas prophète, mais je vais vous dire qu'il y a des raisons bibliques pour lesquelles il faut être attentif dans l'horizon du monde, surtout dans cette année qui vient, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner des dates, mes amis, mais la grande possibilité d'une guerre entre le pays d'Israël et le pays d'Iran. Et pourquoi est-ce que cette guerre est importante et ces conflits? Je vais vous expliquer, il y a des choses que je vous ai déjà montrées dans le passé, dans quelques assemblées, je parlais un petit peu de ces sujets. C'est un sujet très important parce que la tension est de plus en plus forte entre les deux pays. Et le pays d'Israël est entouré d'ennemis, mes amis, qui sont de plus en plus fort. Donc, on est sur le point de voir quelque chose de dramatique au Moyen-Orient. Et l'Église nous a toujours enseigné qu'il faut veiller sur le Moyen-Orient, parce que c'est là où se va décider la destinée de l'humanité. Donc, on a l'obligation d'être attentif, mes amis. Alors, nous, on a la clé pour expliquer pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une guerre entre le pays d'Israël et le pays d'Iran, la nation iranienne, qui est la nation perse par majorité. Mais ce qui est intéressant, que je vais vous expliquer maintenant, et que peut-être il y en a parmi vous qui les comprennent, qui les savent, et j'ai déjà mentionné ça dans un autre sermon, un ou deux sermons avant, mes amis, le monde ne sait pas que le pays d'Iran, Iran est gouverné par une minorité qui n'est pas perse. Et on peut prouver ça par les Écritures, je vais essayer de vous le prouver aujourd'hui. Pourquoi je vais consacrer un peu de temps à ce sujet? Parce que ce conflit, mes amis, s'il arrive, va donner un changement décisif au Moyen-Orient. Si le pouvoir que le pays d'Iran, maintenant, exerce après le vide créé par la chute de Saddam Hussein, c'est l'Iran, avec leur gouvernement chiite, qui a voulu et qui est en train de remplir ce vide en faisant des alliances avec la Syrie, vous savez bien, collaboration avec l'activité terroriste de Hezbollah, qui est chiite, dans le sud du Liban, tout près d'Israël. On en a déjà vu il y a 3 ans une guerre horrible où les pays d'Israël a souffert des dégâts énormes à cause de cette fureur de ses ennemis. Comment expliquer cette tension entre le pays d'Iran et le pays d'Israël? Et quelles seraient les conséquences? Vous le savez bien, mes amis, c'est un secret que tout le monde connaît. Iran, ils essayent d'avoir une bombe atomique. Ils l'ont déclaré publiquement plusieurs fois, comme l'avait fait Saddam Hussein dans son temps, que leur objectif premier, c'est de lancer une bombe atomique sur le pays d'Israël et complètement détruire cette nation. Pourquoi, mes amis? Est-ce que Dieu va le permettre? Donc, il est important d'analyser ces choses-là, très important, et de les comprendre et de savoir fonder sur les Écritures ce qu'on peut croire, qu'on peut savoir et quels seront les résultats de ces conflits au cas où il y aurait un conflit qui est presque inévitable, mes chers amis. Je ne suis pas là pour faire des prophéties, mais c'est simplement pour vous avertir qu'il y a de l'instruction très claire dans la Bible au sujet de cette situation et qu'il n'y a que l'Église de Dieu qui peut comprendre dans son amplitude totale ce qui s'arrive dans ce pays. Donc, la clé, mes amis, pour comprendre le conflit entre le pays d'Iran et le pays d'Israël se trouve dans le livre d'Esther. Je vous prie que vous alliez au livre d'Esther. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez bien l'histoire. Le roi Xerxès, qui est Assuérus, qui est nommé Assuérus, mais n'est autre que le fils de Darius, qui a été le successeur de Cyrus le Grand, dont Dieu a prédit le nom. Dieu lui a mis un nom à Cyrus avant qu'il soit né, 150 ans avant sa naissance. Donc, et ce qu'on va voir ici, mes amis, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut veiller. Le Christ nous a dit qu'il faut veiller. Et ce qui arrive au Moyen-Orient va avoir des conséquences énormes dans le Moyen-Orient. Je vous répète pourquoi. Si le vide que Saddam Hussein a laissé a été rempli par Iran en faisant des alliances avec la Syrie et avec le gouvernement de l'Irak qui est chiite maintenant, quoique Saddam Hussein était sunnite, vous savez bien que le gouvernement de... Donc, ils veulent étendre leur influence dans tout le Moyen-Orient. Et il y a un conflit entre les chiites et les sunnites, vous le savez bien, de la mort de Mohammed, et à cause de la succession du pouvoir, je ne vais pas m'arrêter à donner des détails, vous les connaissez, mes amis, mais il y a un conflit énorme, comme on dit, les conflits entre frères sont comme les serrures d'un château, sont très forts, mes amis, donc eux, ils se haïssent pas mal, et il y a donc ces conflits. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de veiller? Si le pays d'Iran perd son influence qu'il a maintenant et qu'il veut gagner à tout prix et détruire la nation d'Israël, ce vide va être rempli par deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Si vous étudiez un petit peu la géopolitique, mes amis, vous savez que ce sont les pays qui ont le plus d'influence dans la région, à part Iran. C'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et c'est de là, sans doute, de ces deux pays qui va sortir le roi du Sud, qui sera vraiment un signe absolument clair que la fin est déjà arrivée. On pourra presque compter le jour, mes amis. Donc, il faut veiller. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en Iran? Donc, on va voir un petit peu comment nous, on peut savoir que ceux qui ont le pouvoir maintenant au pays d'Iran ne sont pas des Perses. C'est une minorité. Parce que le contraste entre l'attitude des Perses, comme on a vu l'exemple pendant le gouvernement du Shah d'Iran, le Shah était en Perse. Il s'est considéré le successeur de Xerxès et d'Artaxerxès, et même de Cyrus, c'est-à-dire dans cette ligne de gouverneurs ou des rois de ce pays. Donc il appartenait à ce groupe ethnique qu'on connaît comme la Perse. Même s'il était musulman, il n'y avait pas un conflit du tout avec le pays d'Israël ou avec les États-Unis. Vous voyez, et vous savez très bien, que du moment où il y a eu cette révolution dans les années 1979, et ils ont pris le pouvoir, il y a un demi-tour des 180 degrés, un changement d'attitude absolument radical envers le pays d'Israël, envers les Juifs, envers les États-Unis, envers le pays israélite. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Comment on peut expliquer ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, le monde ne comprend pas la Bible, il n'est donc pas le crédit à Dieu. Non, on la comprend, on croit la parole de Dieu, donc on peut savoir qu'est-ce qu'il se passe. Et on va commencer à expliquer la clé du problème dans le livre d'Esther, pour que vous soyez bien au courant de ces choses-là. Donc on va lire le chapitre 3. Vous savez que le roi Assuérus s'est marié avec cette jeune fille Esther, qui était de la tribu de Benjamin, quoique elle avait déjà le nom générique des Juifs, parce que le Lévite, avec les prêtres ou les sacrificateurs, et la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, une grande partie ont été menées captives ensemble en Babylone et ont été en exil de la terre de Judée, au sud d'Israël. Donc, on va voir ce qui s'est passé, et Dieu a permis que le roi de la Perse se marie, et il a nommé comme la reine au lieu de Vasti. J'espère que vous connaissez cette histoire. On n'a pas le temps de tout répéter ici. Mais c'est une jeune juive de la tribu de Benjamin, qui a remplacé la reine perse et qui est devenue la reine de l'Empire. Donc, au chapitre 3 du livre d'Esther, nous lisons. Lisez avec moi. Après ces choses, les rois Assuérus, qui exerçait, comme je vous l'ai déjà dit, fit monter au pouvoir Haman, fils de Hamedata, la Gagite. Donc là, la Bible nous donne une clé absolument claire de l'identité du nouveau premier ministre de l'Empire. 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est l'empire qu'il a hérité de Cyrus et de Darius, mes amis, les rois de Perse. Je répète, après ces choses, les rois Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils de Hamedata, la Gagite. Donc, il y a une clé là, tout de suite, si vous lisez le livre de Josephus, l'historien Flavius, Josephus, ou Joseph, je ne sais pas lequel vous prononcez, si vous le faites en latin ou non, il le dit clairement qu'il s'agissait d'un Amalécite. On va le voir, identifier, il dit c'est l'Agagite, Haman l'Agagite. Donc on va voir qui était Agag. On laisse la Bible s'interpréter elle-même, parce qu'on croit la parole de Dieu. Et vous voyez qu'au chapitre 15 du premier livre de Samuel, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel, avait ordonné à Saül d'aller exterminer Amalek à cause de ce que Amalek avait fait contre Israël dans le désert quand il venait de l'Égypte et se dirigeait vers la terre sainte. Donc, Dieu lui a ordonné, nous allons voir ça un petit peu en détail, et lui a ordonné d'exterminer cette nation, cette tribu, c'est une sentence que Dieu a prononcée contre eux, à cause de quelque chose qu'on va lire tout de suite après pour que vous ayez le cadre clair dans votre esprit. Donc, vous savez que Saül a perdu les règnes ou le royaume ou la couronne parce qu'il n'a pas accompli l'ordre des dieux tel qu'on lui a été donné. Donc, au chapitre 15, verset 31, on voit qui était le roi d'Amalek. Samuel retourna et suivit Saül. Je répète, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 31. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Agag. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire au livre d'Esther? Que le roi a nommé, si vous voulez dire, premier ministre, Agag, et non, Haman, l'Agagite. Donc, c'était un Amalécite. C'est quelqu'un qui appartenait à cette tribu. Donc, qui est Amalek? Pourquoi est-ce qu'il y a ce drame qui se déclenche? Tout de suite après le fait que cet homme a été nommé le premier ministre de l'Empire perse. Vous allez voir. Mais on va d'abord voir qui est Amalek d'après la Bible. On a déjà vu que cet homme, Haman, était Agagite. On a vu que le roi d'Amalek s'appelait Agag. Vous le voyez là, chapitre 15 du premier livre de Samuel, verset 31. Et maintenant, on va au livre de l'Exode, et on voit pourquoi Dieu a un conflit ou une sentence contre ce peuple qui s'appelle Amalek. Donc, voyons le chapitre 17 du livre de l'Exode au verset 8. Il dit, « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. » Donc, vous voyez déjà, Amalek, on l'a déjà vu, on a vu le nom de leur roi, et on a vu que le premier ministre de la nation perse ou de l'Empire perse, qui est aujourd'hui, le Perse habite en Iran, c'était un Amalécite ou un Amalekite. Vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Mais voyons ici la fin de l'histoire. Au verset 14, après que Josué a vaincu Amalek, Dieu commande à Moïse ce qu'on lit au verset 14, c'est-à-dire Exode chapitre 17, verset 14. L'Éternel a dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » C'est la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est exactement ce que cet Amalécite qui a été nommé premier ministre de l'Empire perse, il veut effacer la mémoire du peuple juif. Et aujourd'hui, nous allons le voir, et vous le voyez déjà, et vous le connaissez, c'est exactement le projet du pays, de ceux qui gouvernent le pays d'Iran, pour être plus précis. Verset 15. Chapitre Exode, chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « Éternel, ma bannière ». Et il dit, « Parce que la main, et là il manque un mot qui est dans d'autres traductions, la main d'Amalek ». Écoutez bien ça, mes amis, parce qu'on va voir pourquoi il y aura un conflit de nos jours et Dieu va intervenir pour que le plan de Dieu ne change pas. Dieu ne va jamais permettre qu'un peuple lève sa main contre les trônes des dieux et essaye de changer ce que Dieu a déjà établi dans sa parole, quel sera le déroulement prophétique. Il y a un pays qui veut l'empêcher. Ici, il y a une nation qui a voulu effacer la mémoire d'Israël quand il était dans le désert. Et c'est le premier acte terroriste dont on a connaissance. Et vous le savez bien, que du moment où la révolution islamique a triomphé en Iran, le terrorisme s'est multiplié dans tous les coins du monde. Il y a une raison derrière ça. Et Dieu nous donne assez d'informations pour comprendre la scène du monde. Mes chers amis, il nous donne une sagesse que le monde ne connaît pas. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer ces choses-là. Donc, Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main, et vous pouvez ajouter là, la main d'Amalek s'est levée, c'est une meilleure traduction que j'ai ici, s'est levée contre, pas sur le trône, contre le trône de l'Éternel. Il a voulu changer ce que Dieu avait déjà déterminé. Je vous l'expliquais tout de suite. Et il s'est levé contre le trône de l'Éternel. Et puis il dit, l'Éternel dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, s'il y a un conflit, on a des raisons pour croire que le pays d'Israël aura du succès, pas à cause de leur vertu, mes amis, parce qu'ils se sont bien éloignés des dieux, je le dis avec tristesse, mais pour que le plan des dieux ne soit pas changé. Ici même, le peuple était en train, au chapitre de l'Exode, d'exaspérer Dieu. Une fois après l'autre, vous le voyez, il y avait le murmure au sujet du rocher venait d'arriver, il s'était déjà plaint au bord de la mer Rouge, mais Dieu n'a pas permis que cette nation vienne changer ce que Dieu avait déjà déterminé. Il avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob que cette terre de Canaan était leur héritage pour toujours. Est-ce qu'Amalek, on peut lire entre lignes, je vous le confirmerai dans un moment, ce qu'il a essayé de faire en levant sa main contre le trône de l'Éternel, c'est de changer le plan des dieux. Pourquoi voulait-il changer le plan des dieux? Il n'y a que la Bible qui peut nous expliquer pour comprendre les attitudes des peuples aujourd'hui et comment sera le déroulement de la prophétie. Pourquoi voulait-il changer le plan des dieux? Qui était Amalek? De qui était-il un fils? Donc, on veut voir ici au chapitre 36 de la Genèse. Mes amis, c'est incroyable comme la Bible nous donne les clés. C'est une parole vivante. C'est pourquoi il faut être diligent à étudier ce livre jour après jour. C'est notre nourriture spirituelle. C'est l'huile qui met du feu dans la lampe, qui fait brûler la lampe continuellement. Si on ne le fait pas, notre lampe va diminuer sa lumière. On deviendra aveugle parce que la lampe du corps, c'est l'esprit illuminé par la parole des dieux, mes amis. Mais on va voir ici au chapitre 36. Incroyable comme on voit l'histoire écrite à l'avance et même dans la Genèse, on peut identifier les attitudes des peuples aujourd'hui, on peut les reconnaître. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Christ nous a dit? Par leurs fruits, vous les connaîtrez. Donc on va identifier par les fruits la minorité qui gouverne le pays d'Iran aujourd'hui et la raison par laquelle ils veulent détruire le pays d'Israël et la raison par laquelle Dieu ne va pas le permettre. Ça, je peux vous le dire en toute certitude, mes chers amis, parce que personne ne va changer ce que Dieu a déjà déterminé. Le Christ a déjà dit comment le peuple juif, Jérusalem va être entouré d'armées, mais ça va être les armées du roi du Nord. Bien sûr, il y aura des Amalekites là, en essayant d'aider, mais ce n'est pas eux qui auront le commandement des armées. C'est les armées, comme le Christ l'a prédit dans l'année 31, que avant la fin de cette génération-là, il y aura un accomplissement, dont le deuxième accomplissement, on est en train d'attendre sur les points d'arrivée, mes amis. Le Christ leur a dit que les armées viendraient entourer Jérusalem dans l'année 70. Ces paroles se sont accomplies exactement comme il les avait dites. Et nous, on attend aujourd'hui que ces paroles vont être accomplies encore, et ça sera l'Empire romain, comme c'est Titus, le fils de Vespasien, qui entourait Jérusalem et qui finalement a pris la ville et a détruit le deuxième temple. On sait que il y aura la restauration septième, la toute dernière restauration des Roms. C'est eux qui vont prendre la ville de Jérusalem et que la bête, c'est-à-dire le roi ou l'empereur, va s'installer à Jérusalem entre les deux mers, entre la mer Morte et la mer Méditerranée, sur les monts saints de l'Éternel où les temples étaient bâtis pour se faire adorer avec les faux prophètes. Donc on sait que ce sont des choses que Dieu a déjà déclarées dans sa parole. C'est le pays d'Iran. Lance une bombe atomique nucléaire sur le pays d'Israël et il efface complètement la ville et la population. Donc les prophéties de Dieu ne vont pas s'accomplir. C'est pourquoi, avec l'autorité de la Bible, je peux vous dire que s'il y a une guerre entre ces deux pays, Dieu ne va pas permettre que sa prophétie soit accomplie et que le pays d'Iran ou les gouverneurs, ceux qui gouvernent ce pays maintenant, aillent changer ce que Dieu a déjà écrit, ce qui est déjà annoncé dans sa parole. c'est la grande Babylone, c'est la dernière restauration des Roms qui va prendre Jérusalem et Judée et la terre d'Israël et amener captive la population, la moitié de la population de la ville de Jérusalem. Donc, Dieu ne va pas permettre que personne l'empêche. C'est pourquoi je vous dis que s'il y a une guerre, il est fort possible qu'il y ait une guerre, que les Israéliens auront du succès. Et je vais vous montrer ça encore avec plus de preuves. Et donc, je dépense assez de temps dans ces sujets parce qu'il est important de comprendre la scène du monde pour savoir le déroulement de la prophétie, mes amis. Donc, au chapitre 36, merveilleusement, c'est ça la parole de Dieu, toujours vivante, mes amis. Hélas, si nous, on ne met pas en pratique le fait de nous nourrir jour après jour et de demander à Dieu, comme le roi David, « Ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta loi » et qu'on comprenne la prophétie pour être prêt, pour veiller sur nous-mêmes. Ça, c'est pas pour satisfaire la curiosité, c'est pour veiller sur nous-mêmes, pour ne pas perdre les freins. Donc, voici la postérité d'Ésaü, chapitre 36, de la Genèse, et nous allons voir l'identité de cette nation qui a comme un but irrationnel, mais absolument, ils sont déterminés de détruire la nation juive. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, et le Hessien, Oholibama, fille d'Ana. Je suis en train de lire chapitre 36 de la Genèse. Donc, il dit, Ada enfanta Ésaü, Éliphaz. Donc, Éliphaz, gardez ce nom en tête. Je suis en train de lire le verset 5. Et le premier-né. C'est l'aîné d'Ésaü. Souvenez-vous d'une chose. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Souvenez-vous, c'est une histoire qui a commencé dans les seins de leur mère. Ils se battaient déjà, Jacob et Ésaü. Ils luttaient dans le ventre de leur mère. Et Dieu a dit à Rebecca, il y a deux nations dans ton sein qui vont être séparées. On va voir les raisons. C'est parce que, bien sûr, Ésaü était profane. Il a vendu son droit d'aînesse parce qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. Il n'a pas montré la maturité nécessaire de l'aîné pour administrer l'héritage. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la terre sainte. C'était la première chose qui venait avec les droits d'aînesse. C'était la possession de cette terre merveilleuse. Il a perdu le sacerdoce, il a perdu le sceptre, il a perdu la double portion qui a été donnée à Joseph. C'est une étude incroyable. Elle est toute là dans la Bible. Je n'ai fait que vous mentionner un petit peu pour que vous ayez un concept pourquoi il y a ce conflit irrationnel qui n'existait pas de jour du Shah d'Iran, mais quand il y a ce changement du gouvernement, et il y a ce gouvernement, c'est cette attitude qui s'installe d'une façon incroyable de haine. Donc, on voit qu'Éliphaz est le premier-né. Alors, si vous tournez, je tourne la page ici, verset 9 du chapitre 36 de la Genèse. Voici la postérité d'Ésaü, père de Dom, dans la montagne de Séir. Gardez ça. C'est ça le territoire que Dieu lui a donné parce qu'il a perdu le droit d'aînesse. Dieu ne l'a pas donné la terre d'Israël, qui était la terre de Canaan à cette époque. Donc, il va dans la montagne de Séir, verset 9, chapitre 36 de la Genèse. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc, c'était le premier-né. Ada était de la terre de Canaan. Donc, on voit pourquoi ils veulent gagner cette terre à tout prix, parce que leur père l'a vendue pour un plat de lentilles. Mais ce qu'ils se rappellent par tradition, c'est que Jacob a fait une tromperie là pour avoir les droits d'aînesse, mais Ésaü l'avait déjà perdu. Vous connaissez bien l'histoire, je ne veux pas tout répéter maintenant. Et puis il dit, au verset 11, « Le fils d'Éliphaz furent Téman, qui est le pays des Yémen, qui veut dire le sud, il y a du terrorisme maintenant, là-bas, Omar, Sepho, Gaétam et Kenas. Et Timna était la concubine d'Eliphaz. Eliphaz, premier-né d'Ésaü, c'est lui qui aurait hérité la portion du droit d'aînesse. Alors il dit Eliphaz, fils d'Ésaü, et l'enfantant à Eliphaz, Amalek. Alors maintenant, si vous mettez tout ensemble, Amalek vient et attaque Israël dans le désert qui va vers la terre promise que le grand-père d'Amalek, qui vient du premier-né d'Ésaü, avait vendu pour un plat de lentilles. Donc il voulait détruire cette terre pour s'emparer de la terre et changer ce que Dieu avait déjà déterminé. Donc sa main s'est levée contre les trônes des dieux. Et Dieu déclare une guerre de génération en génération contre Amalek. Nous allons les voir ici au chapitre 25 du Deutéronome. Je m'attarde un petit peu sur ce sujet, mais vous avez toute la journée, mes chers amis, et moi aussi, pour mettre ces choses clairement, parce que le temps s'approche. Il faut que ça soit défini. Ça ne va pas rester comme ça. Hein. Les chiites, s'ils arrivent à avoir la bombe atomique, mes amis, vous allez voir, ça serait vraiment un drame très grave, mais Dieu ne va pas permettre, il ne va pas permettre que personne vienne changer ses plans, son plan. Donc, on continue ici au chapitre 25 du Deutéronome. Il dit, au chapitre 25, verset 17 du Deutéronome, souvenez-vous que 40 ans avant, Amalek est venu et a attaqué Israël. Donc, ici, on va voir décrit le premier acte terroriste dont on a la connaissance. Ici, Dieu même le décrit. C'est une caractéristique de cette nation, de ce peuple amalécite. Voyez chapitre 25, verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte des dieux. » C'est comme aujourd'hui. Ils veulent détruire toute une nation sans aucune crainte des dieux. C'est pourquoi ils ont levé la main contre les trônes des dieux. On est en train de le voir aujourd'hui, mes chers amis. Je m'attarde un petit peu sur ce sujet parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je ne sais pas exactement quoi, mais je vous ai déjà dit que Dieu ne va pas permettre qu'aucune nation, aucun peuple change ce qu'il a déjà écrit et ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Comment il te rencontra dans le chemin sans aucune crainte des dieux. Souvenez-vous qu'ils avaient déjà traversé la mer Rouge, et toutes les nations d'environ, même les Philistins, 400 ans après, quand ils ont volé l'arc des dieux, leurs princes et leurs prêtres leur ont dit, retournez cet arc, souvenez-vous que les dieux d'Israël a ouvert les eaux de la mer Rouge. Donc, malgré ces miracles incroyables que les gens déjà connaissaient, quand les espions sont arrivés à Jéricho, Rahab, la dame qui les a reçus, elle savait déjà ce que Dieu avait déjà fait pour Israël, donc Amalek le savait aussi. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne lui a pas suffi. Il dit, sans aucune crainte des dieux, tomba sur toi par derrière. C'est un acte terroriste. Ils n'attaquent pas l'armée. Ils attaquent la population civile qui ne peut pas se défendre. Ça, c'est le terrorisme. Numéro un. Il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient le dernier. C'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas se défendre de la population civile. Pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Donc, c'est une façon lâche d'attaquer, mes chers amis. Donc, numéro un, il ne fait pas face à l'armée, au fort de la nation, au fort du pays, à Juda qui allait devant, mais ils attaquent par derrière, ils attaquent la population civile qui ne peut pas se défendre, qui continue à arriver jusqu'à nos jours, et qui s'est multipliée 100 fois ou 200 fois depuis que ceux qui ont maintenant le pouvoir en Iran ont pris le pouvoir en 1979. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Donc, Dieu a une sentence, et puis, je ne vais pas vous montrer tout, ça serait toute une étude. Il y a encore plus d'informations là-dessus. Ce que je voulais montrer, c'est simplement que Dieu nous donne assez d'informations pour comprendre le Moyen-Orient. Par leurs fruits, on peut les identifier. Donc, si vous nous retournez dans le livre d'Esther, et vous vous souvenez ce que je viens de vous dire, c'est que Amalek est le petit-fils d'Ésaü qui a vendu le droit d'aînesse. Et Amalek, par son attitude en voulant détruire Israël, on voit bien qu'il veut s'emparer de la terre que son grand-père a vendue. Donc, ce sont deux enfants qui luttent pour un héritage. C'est ça la définition la plus simple. Je vais vous montrer maintenant au chapitre 35, verset 10 du livre d'Ézéchiel. Vous voyez comment on peut pénétrer la scène du monde aujourd'hui avec ce livre. Ce livre, combien d'années ça fait que Jean a fini le livre de l'Apocalypse et continue à être une parole vivante qui nous instruit même de nos jours à un moment où il faut vraiment. Donc, si vous voyez au chapitre 35 du livre d'Ézéchiel, Dieu adresse maintenant le mont Séir. Je vous ai déjà montré au chapitre 36 de la Genèse que le mont Séir était la demeure ou le territoire d'Ésaü, où Amalek est né, mes chers amis. Mais ils ne veulent pas, ils veulent l'autre, ce qu'ils ont perdu, et ils lèvent la main contre le trône des dieux pour le récupérer, pour s'emparer de ce pays. Au chapitre 35 du livre d'Ézéchiel, je vous donne la preuve, comme je vous ai dit, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des choses qui sont fondées sur cette parole. C'est pourquoi j'ose vous présenter ces concepts, mes chers amis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Chapitre 35 d'Ézéchiel, verset 2. « Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir. » On a déjà vu que Ésaü a déménagé au mont Séir avec ses trois femmes et que Amalek était le petit-fils d'Ésaü dans les monts Séir, fils d'Éliphaz, le premier-né ou l'aîné de Ésaü. Alors, maintenant, Dieu adresse le mont Séir, c'est-à-dire le peuple de Ésaü, dont Amalek est le petit-fils. Et vous allez voir maintenant, au verset 10, que ce qu'ils ont en tête, c'est de s'emparer de cette terre qu'ils ont perdue à cause du péché et du fait que c'était un profane, le grand-père qui n'avait pas la maîtrise de soi. Mon ami, mes amis, chapitre 35, verset 10. Dieu dit au mont Séir ici, gardez ça dans votre esprit, s'il vous plaît, pour comprendre le Moyen-Orient. C'est important. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession. Ce sont les paroles d'Ésaü, des descendants d'Ésaü, y inclus Amalek, y compris Amalek, mes amis. Et vous allez voir que Dieu leur dit qu'ils ont eu une haine perpétuelle contre leurs frères. Et je vais vous les lire tout de suite. Vous voyez la haine qu'on voit aujourd'hui au pays d'Iran, qui n'était pas quand les Perses étaient au pouvoir. Et vous voyez le désir de s'emparer de la terre sans aucun respect pour ce que Dieu a déterminé. Donc, je ne croyais pas que j'allais dépenser tellement de temps dans ce sujet, mais il est important. Je crois que vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs. Ici, il dit, Dieu dit. Au verset 3, tu lui diras ainsi, « Parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi montagne de Séir. » C'est tout le peuple d'Ésaü, y compris Amalek. « J'éteins ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel parce que tu avais une haine éternelle. » Une haine éternelle. De nos jours, on la voit devant nos yeux, dans un événement qui pourrait changer l'histoire du monde, et dont l'explication et les racines sont ici devant nos yeux, dans la parole de Dieu. Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse. Oui, les Idouméens étaient les Édomites qui ont aidé Nabuchodonosor quand il a pris les Juifs captifs, ceux qui s'échappaient. Les Édomites les tuaient. Et après, quand Titus, le fils de Vespasien, il a pris la ville de Jérusalem dans l'année 70 de notre ère, ou de notre âge, après le Christ, les Idouméens, qui étaient les descendants des Édomites, ils ont tué les Juifs qui s'échappaient. C'est écrit dans le livre d'Abdi, mes amis. là, dans les prophètes mineurs. Donc, on voit qu'ils veulent s'emparer de la terre. Je vous rappelle, il dit au verset 10, il dit au verset 5, une haine éternelle, et au verset 10, parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi. Judée au sud et Israël au nord, c'est la portion double qu'il a perdue de la terre, mes chers amis, et ils veulent s'emparer à tout prix. Donc, avec ce cadre devant vos yeux, que j'espère que vous comprenez bien, mes chères sœurs et frères, on va voir le livre d'Esther et on va comprendre ce qui se passe maintenant au pays d'Iran contre Israël. Il n'y a que la Bible qui peut nous expliquer ça. Étonnant, comme c'est le seul livre dont on trouve la clé pour identifier la destinée, les attitudes des peuples, mes chers amis. Donc, au chapitre 3 d'Esther, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé et on va voir exactement ce qui se passe aujourd'hui. Chapitre 3, verset 1. « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammedata. » Maintenant, il faut que vous observiez quelque chose de très important. Le nom Haman, H-A-M-A-N, est exactement le même nom Khomeini. C'est H-M-N. Les consonnes se préservent dans les textes, et c'est pas hébreu, ça c'est le texte araméen, comme dans le texte hébreu. Donc, ce qui est étonnant, c'est que le nom de celui qui a mis hors du pouvoir, qui s'est emparé du pouvoir en Iran, est le même nom de celui qui était nommé premier ministre de l'Empire à l'époque du roi Xerxès. Donc, Khomeini. Et vous pouvez montrer ça, hein, vous pouvez demander à quelqu'un qui connaît le grec, qui connaît l'hébreu ou l'araméen. Haman et Khomeini est le même nom. C'est assez incroyable, mes amis. Et puis, Hammedata, ça se ressemble pas mal à Ahmedinejad, mes amis. Je demandais à une jeune dame qui voyageait avec moi quand je suis allé en Europe cet été passé, et elle me disait qu'elle comprenait que ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas des Perses. Ils ne savent pas l'expliquer. Nous, on peut l'expliquer. Donc, ces hommes-là étaient des Amalécites ou des Amalékites. Je ne sais pas exactement comment on le dit en français, mais ça ne fait rien. Vous comprenez de quoi je parle. Donc, ce qui est arrivé à l'époque d'Esther, ce qui est arrivé maintenant, le chat était Perse. Quand il a été... Quand le coup d'État a eu lieu ou quand il a perdu le pouvoir, c'est Khomeini qui l'a pris. Et maintenant, quand il a été nommé par Assuérus, c'est le même nom. Et la Bible nous dit que c'est un Amalécite. Si vous le voyez à Josephus, il le dit directement. Ici, la Bible nous dit que c'est un Agagite. Et je vous ai déjà dit qu'Agag est le roi d'Amalek. Donc, c'est assez clair ce qui est en train de se passer, que le monde ne comprend pas. C'est pourquoi nous, on comprend une minorité qui est au pouvoir et qui ne va pas rester là, parce que Dieu ne va pas permettre qu'il change ses plans. Fils de Hammedata, Ahmedinejad, c'est incroyable, mes amis, comment c'est clair. Il éleva en dignité, plaça son siège au-dessus de ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Vous savez que le roi dit que tout le monde devait se mettre à genoux ou fléchir le genou devant Haman, mais Mardoché, qui était le cousin de la reine, il ne faisait pas, parce que c'était comme de l'adoration. Il n'allait pas adorer quelqu'un qu'il savait, dont il connaissait l'identité. Il savait qu'il était un Amalécite ou un Amalékite qui a voulu détruire la nation d'Israël dans le passé, qui avait une malédiction contre eux. Donc, il ne voulait pas se mettre à genoux, fléchir le genou devant cette personne. Alors, quand il a compris que Mardoché était juif, nous dit le verset 6 vers la fin, il a pensé non pas seulement à se débarrasser de Mardoché, mais à détruire tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc il voulait effacer le peuple de la face de la terre, comme c'est arrivé au chapitre de l'Exode et comme nous le voyons aujourd'hui, mes amis. Donc au premier mois, qui est le mois de Nisan, donc... Il a proposé au roi qui avait un peuple qui observait des lois différentes. Donc il connaissait bien l'identité des Juifs. Il était l'ennemi des Juifs. Alors, disons, on va lire ici au chapitre 3, verset 8. Alors Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Et je paisserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. C'est exactement ce que l'Inquisition a fait aussi. Elle s'emparait des fortunes des Juifs, surtout en Espagne. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissaient avec les fortunes ou les richesses du peuple juif. Ici aussi, il promet 10 000 talents d'argent si le roi lui donne la permission de exterminer ce peuple. Donc le roi lui donna toute l'autorité. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils de Hammedata, de nouveau Khomeini, Ahmadinejad, la Gagite, la Malekite, la Malécite, qui a toujours voulu détruire Israël. C'est clair maintenant, tout à fait clair, devant nos yeux, un ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. « Fais en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon la langue. Ce fut au nom du roi Assuérus qu'on l'écrivit et on scella avec l'anneau du roi. La lettre fut envoyée par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît. Écoutez-moi ça. C'est l'ordre que Dieu avait donné à Saül contre Amalek. Maintenant, cet Amalekite, cet Amalécite le donne contre les Juifs. C'est une ironie, c'est une vengeance qu'ils ont vraiment contre Dieu lui-même. Il dit ici, pour qu'on détruisît, qu'on tua et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux. Petits enfants et femmes, en un seul jour. Exactement la même attitude qu'ils ont aujourd'hui. Ils l'ont publié, ils ont mis dans leur fusée, mort à Israël. Ils veulent l'exterminer en un seul jour. C'est incroyable comme l'histoire est présente. Le passé, le présent, le futur devant nos yeux, dans la parole de Dieu. C'est une parole vivante, mes amis. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger l'étude pour que notre lampe soit en train de brûler et qu'on ne perde pas le discernement et qu'on vive dans les ténèbres. Il faut de la diligence, il faut se lever de bonne heure, il faut étudier, il faut prier, il faut prier, il faut étudier. Je vous en parlerai davantage sur ces sujets-là, mes amis.
Ce sermon se continue dans le DVD partie 2.